On a parlé à l'instant de l'histoire politique de la Centrafrique qui a présenté des aspects drôles dans ces tragédies. Et on va parler maintenant peut-être de ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique et puis de ce que fait la France dans ce qui se passe aujourd'hui dans le rôle des multinationales dans ce pays qui est encore en guerre civile, on peut dire. Je sais pas, peut-être Gervais Lacosso, bah écoute, je te prie de continuer la belle histoire que tu es en train de nous raconter.
Bon, donc je disais que la fin du régime de Bozizé a respecté les mêmes règles. Ça s'est mal passé, ça a justifié une rébellion qui avait des revendications plutôt sociales au départ. Parce que la coalition Séléka, c'est le regroupement de plusieurs mouvements rebelles qui est constitué essentiellement par des centrafricains qui sont du nord de la République centrafricaine, donc qui étaient les bénéficiaires de ce programme des mobilisations, désarmement et réinsertion, mais qui n'ont pas reçu les fonds, qui n'ont pas reçu les bénéfices de ce programme-là. Et ils disaient aussi que leur région est marginalisée, est très en retard par rapport aux autres régions du pays, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que toutes les régions de la République centrafricaine sont en retard, sont presque marginalisées. Mais bon, c'était acceptable, mais sauf que dans leur progression, quand ils prenaient des villes, ils ne se comportaient pas comme des gens qui avaient des revendications sociales, mais plutôt comme des sauvages qui détruisaient tout, qui cassaient des églises, qui pillaient, qui violaient. Et puis, et face à eux, le Bozizé, qui était au pouvoir, n'a pas eu une résistance ni politique, ni militaire, parce que toutes les propositions, les arrangements politiques qu'il y a eu, qui aurait permis à Bozizé de garder le pouvoir jusqu'à sa fin légale, il ne les a pas respectés.
Parce qu'il n'a pas été soutenu aussi par ses protecteurs habituels.
Oui,
Ils l'ont abandonné.
Le Tchad l'a lâché, la France aussi l'a lâché, mais quand même, on lui a tendu la perche lors des accords de Libreville. Les accords de Libreville, vraiment, permettaient à Bozizé de garder le pouvoir jusqu'à la fin de son mandat, avec obligation pour lui de respecter la constitution, c'est-à-dire de ne pas se présenter. Mais malheureusement, retour des accords de Libreville, d'abord la constitution du gouvernement d'union nationale, qui devrait se faire après les accords, n'a pas été aussi clair que ça. Finalement, il a constitué presque deux gouvernements. Tous ses anciens ministres qu'il devait enlever, il les a nommés ministres conseillers à la présidence. Et les Séléka, de leur côté aussi, n'ont pas respecté les accords parce que de leur côté, ils devaient observer un cessez-le-feu. Ça n'a pas été le cas et de part et d'autre, ces accords n'ont pas été respectés. Et comme Bozizé entretenait très mal l'armée nationale aussi, et il a recruté des ressortissants de son ethnie qu'il a mis dans l'armée et qui n'avaient pas la formation qu'il faut. Donc, ils n'ont pas résisté devant la percée des Séléka. Et je crois, comme vous l'avez dit, Bozizé ayant perdu le soutien de ses alliés, surtout de nos voisins, ils ont laissé donc les Séléka passer. Il y avait une ligne rouge qui était instituée par la force de la CEAC, la FOMAC, la force d'Afrique centrale qui était là. Mais ils ont laissé les Séléka franchir cette ligne rouge et ils sont entrés à Bangui le 24 mars 2013. Bozizé a donc pris la fuite, il a pris son hélicoptère, il est parti au Cameroun et la coalition Séléka s'est installée au pouvoir. Michel Ndoutoudia est devenu un président autoproclamé, dissous la constitution, comme ce que font tous ceux qui prennent le pouvoir par un coup d'état. Mais malheureusement, au lieu de gouverner, ils ont continué à se comporter comme s'ils étaient encore en rébellion.
En pays conquis.
Voilà, ils continuaient. Et pourtant, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mercenaires tchadiens et soudanais parmi eux, mais c'est les centrafricains qui avaient le pouvoir politique, mais ils n'ont pas pu. Peut-être qu'ils ne croyaient pas qu'ils allaient arriver au pouvoir, parce que vraiment, c'était impressionnant de voir que les gens sont au pouvoir, mais ils se comportent comme s'ils étaient vraiment en forêt, comme si c'était l'anarchie totale.
Ils n'avaient aucun programme.
Ils ne respectaient pas les droits humains. En tout cas, c'était l'anarchie totale. Et ce qui a justifié la création d'un autre mouvement, les anti-Balaka, qui agissait contre les Silika. Mais les anti-Balaka, il faut le préciser très bien, pour la gouverne de ceux qui pensent que les Silika sont des musulmans et les anti-Balaka sont des chrétiens et qu'il y a un conflit religieux en Centrafrique.
C'est ce qu'on nous dit ici. Hein.
Voilà, mais c'est faux et archi-faux.
Alors ?
Parce que les Silika, ce n'est pas une organisation musulmane. C'est constitué en majorité de musulmans, d'ailleurs des faux musulmans, parce que si c'était des bons musulmans, ils ne devraient pas faire ce qu'ils font, parce que les Centrafricains du Nord sont des musulmans. Ils sont en frontière avec le Tchad et le Soudan, ils sont des musulmans, mais ils n'ont pas agi au nom de l'islam. C'est un mouvement politico-militaire. Et quant aux anti-Balaka, au départ, c'est un mouvement de résistance populaire, et qui, s'il vous plaît, est à la fois composé de chrétiens et de musulmans. C'est d'ailleurs des éleveurs peuls qui ont amené la fétiche que les anti-Balaka utilisent. Anti-Balaka, ça veut dire qu'ils utilisent que Balaka, c'est des machettes. C'est des machettes et ils sont invulnérables. Quand tu leur tires dessus, ça ne les tue pas. C'est les peuls, les éleveurs peuls, qui ont fait ces fétiches-là. Et eux et les jeunes centrafricains, chrétiens, ont utilisé ça au départ pour résister contre les coupeurs de route. Les coupeurs de route, c'est un autre phénomène en Centrafrique. Pendant la saison sèche, souvent, des gens venus du Tchad et de Centrafrique aussi se mettent ensemble, ils organisent. C'est des bandes armées. Des gangs, ils sont en forêt et quand il y a des véhicules qui circulent, ils barrent la route, ils vous prennent tout ce qu'il y a de bien sur vous.
C'est du brigandage.
Des brigands, voilà. Ils entrent dans un village, ils prennent les bœufs, ils prennent tout ce qu'il y a de bien. Et donc, c'est les éleveurs peuls et les paysans qui se sont mis ensemble et c'est les peuls qui ont apporté cette fétiche d'invulnérabilité et qui leur permettait de résister aux coupeurs de route. Et maintenant, dans l'histoire récente, c'est dans la ville de Boussangwa, au nord de Centrafrique, que cette histoire d'anti-Balaka a revu le jour. Et c'est dans la même forme, c'est les éleveurs peuls qui ont fait la fétiche, et eux et les jeunes chrétiens sont mis ensemble pour attaquer les Silika. Parce que les Silika vidaient les greniers des paysans et emportaient les bétails des éleveurs peuls. Ils se sont mis ensemble, chrétiens et musulmans, pour attaquer les Silika.
En tous les cas, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à l'intervention de l'armée française en Centrafrique, on ne parlait pas de conflits religieux entre chrétiens et musulmans en Centrafrique. C'est après coup, au bout d'un certain nombre de jours après l'intervention...
On a commencé à
parler dans les médias d'une guerre de religion.
Vous avez bien dit de dire c'est dans les médias qu'on a commencé à en parler. C'est pas une guerre de religion, ça a eu une dimension, une certaine dimension religieuse. Pourquoi ? Parce que les Silika, qui sont constitués et majoritairement de musulmans, c'est eux qui étaient au pouvoir et ils massacraient pas seulement les non-musulmans, les musulmans aussi ont été victimes de Silika. Donc si c'était une guerre, un conflit religieux, ils ne devraient pas massacrer les musulmans aussi. Les Silika ont massacré chrétiens et musulmans.
Qui n'étaient pas d'accord avec eux.
Voilà, justement.
C'était un mouvement qui est parti de revendications sociales populaires, qui a dérivé vers un certain fascisme.
Voilà, et quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont continué à se comporter comme et les anti-Balaka, ils se sont soulevés d'abord dans la ville de Boussangwa, ils se sont battus contre les Silika, ils les ont chassés de la ville pendant 3 jours. Mais quand les Silika sont allés prendre des renforts, à leur retour, ils commençaient à casser des églises, à s'en prendre aux chrétiens. Et c'est là où le problème a commencé. Les jeunes chrétiens qui étaient ensemble avec les éleveurs peuls ont commencé à s'en prendre eux aussi aux civils musulmans. Vous avez vu, c'est là où ça a pris une dimension quelque peu interreligieuse. Et maintenant, quand les Séléka sont revenus, les ont chassés parce que les anti-Balkans, ce n'est pas des militaires, ils ne sont pas armés. Ils ont que des machettes et des armes préfabriquées.
C'est pas au même niveau, en fait.
Voilà, c'est pas au même niveau.
D'accord.
Et les Séléka, ils ont eu des réponses vraiment disproportionnées. Et les anti-Balaka, ils sont repartis. Maintenant, ils se sont organisés. Il faut savoir que les anti-Balaka, il y a au moins trois dimensions. Il y a ceux qui se sont soulevés contre les exactions des Séléka. Il y a eux, une branche qui a fait l'objet d'une manipulation politique parce que l'ancien président François Bozizé voulait passer par eux pour revenir au pouvoir. Et ceux-là, ils sont quand même équipés, ils sont armés. Hein, et c'est eux qui sont entrés dans la ville de Bangui le 4 et le 5 décembre. Ils ont attaqué les Séléka, ils voulaient prendre le pouvoir, reprendre le pouvoir par la force.
Au nom des anti-Balaka, même voilà. Si en fait c'était voilà. Bozizé par derrière.
Voilà, c'est pour ça que je disais qu'il y a deux tendances des anti-Balaka. Il y a même une troisième tendance. La troisième tendance, c'est que les anti-Balaka, c'est devenu une sorte de label, que des groupes de jeunes bandits se retrouvent quelque part dans une ville ou un quartier. Ils disent que nous sommes des anti-Balaka. En réalité, ils n'ont rien à voir avec l'une ou l'autre branche des anti-Balaka. Mais c'est des bandits qui prennent le nom pour aller voler. Même les Séléka aussi ont le droit à ça. Des jeunes qui disent qu'on est des Séléka, en réalité, ils ne le sont pas.
Ça me rappelle un peu ce qui se passe au Mali ou dans d'autres pays où il y a des groupes islamistes, entre eux, des groupes brigands, des brigands qui se comportent comme des brigands et qui revendiquent qu'ils sont d'Al-Qaïda, d'islamistes, et
voilà.
pour prendre le label et, voilà, se proclamer de tel truc.
Pour pêcher en eau trouble.
Et quid de l'intervention militaire française
et ce qui s'est passé le 4 et le 5 décembre, les Français étaient déjà à Bangui. Les Français sont arrivés à Bangui et les Français et la MISCA, hein, la mission internationale de soutien à la République centrafricaine sous conduite africaine. L'opération française s'appelle l'opération Sangaris. Les Français, c'est 2000 hommes. La troupe africaine, c'est 6000 hommes. Ça fait 8000 hommes. Leur mandat principal était, ou est encore, je ne sais pas, de désarmer tous les détenteurs illégaux d'armes.
Qu'ils soient Séléka ou anti-Balaka.
Séléka ou anti-Balaka ou autre. Et d'instaurer l'ordre en République centrafricaine parce que cette crise-là a entamé tout le système centrafricain. Les forces de défense sont inexistantes. L'armée nationale est inopérationnelle. Donc cette mission revenait à la troupe africaine, la MISCA, et l'opération Sangaris française de mettre l'ordre à Bangui. Mais malheureusement, selon l'observation que nous avons vue à Bangui, c'est fait avec beaucoup de malignité, avec beaucoup d'hésitation. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que Sangaris, quand ils ont arrivé, ils ont commencé effectivement à faire le désarmement. Mais après 3 jours, ça s'est arrêté après que 2 soldats français étaient tués par les Séléka. Donc, ils ont arrêté ou dilué en tout cas l'opération et le désarmement ne se faisait plus. Et l'arrivée d'ailleurs des anti-Balaka à la porte de Bangui était un peu miraculeux parce que initialement c'est des gens qui ne sont pas bien équipés, mais subitement ils ont eu beaucoup d'armes, ils sont équipés et puis ils sont entrés dans la ville par le nord, par la même voie que les Séléka empruntés, ils sont allés jusqu'au centre-ville, jusqu'au palais de la présidence. Il leur manquait qu'un petit détail pour renverser le régime. Mais les Séléka, eux aussi, sont lourdement armés. Et je crois que c'est l'une des tueries les plus sanglantes, les plus graves qu'on a connues en Centrafrique et à Bangui. Parce qu'après, ça a débordé dans tous les quartiers, et c'est là où les Séléka ont commencé à s'en prendre aux civils non musulmans, et les anti-Balaka aussi s'en prenaient aux civils musulmans.
Ça rappelle un peu ce qui s'est passé, peut-être, je fais un parallèle, mais dans les pays des Balkans, où au départ, il n'y a pas tant de choses que ça, et puis un groupe vient avec un autre groupe, et puis finalement, on extrapole le groupe d'en face, et en fait, des groupes qui originellement étaient mixtes musulmans, chrétiens, s'en prennent à tous les...
Voilà.
Enfin, voilà, et le mécanisme gonfle comme ça.
C'est parti dans tous les sens, les victimes sont devenues des bourreaux, les bourreaux deviennent victimes, et c'est parti dans tous les sens. Et ça a duré à un moment, après le 5 et le 6 décembre, ça a débordé même jusqu'en début janvier, où vraiment c'était invivable la situation. Et puis les anti-Balaka ont réussi à fragiliser le régime de Ndouto Dia, et ils ont réussi à les calmer. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls détenteurs de la violation des droits humains et des tueries. Parce que les anti-Balaka aussi faisaient les mêmes dégâts que les Seleka. Et ça a permis, en quelque sorte, d'équilibrer les choses, et ça a calmé
l'équilibre de la terre.
Et ça s'est calmé en fait de soi-même, c'est-à-dire comment on a redescendu l'escalade.
Bon, il faut reconnaître aussi que l'interposition de l'armée française et de la force africaine a joué un petit rôle. À un moment, ils se sont beaucoup interposés, et les Seleka face aussi à la violence de leurs confrères, moi je dis les anti-Balaka, parce qu'ils font la même chose, ont commencé à se replier dans le nord du pays, à quitter la ville de Bangui, et au fur et à mesure la tension chutait, mais le pouvoir de Ndouto Dia était vraiment affaibli. Et il faut savoir que, contrairement à ce que les médias disent, c'est Ndouto Dia lui-même qui a demandé à quitter le pouvoir. La CAC n'a fait qu'organiser son départ de pouvoir, et c'est lui-même qui ne pouvait plus gouverner, parce que les fonctionnaires n'allaient plus au travail, et même les transports publics, le pays était paralysé pendant plus d'une semaine, pendant plus de deux semaines, et donc il voyait qu'il n'avait plus de marge de manœuvre.
Et qui a choisi sa remplaçante?
C'est le Conseil national de transition, le Parlement de transition.
Et alors lui, il sort d'où? Comment on a trouvé les gens qui composent ce parlement de transition? Si il y a les Seleka et les anti-Balaka sont mis autour de la table, on dit bon, allez, on va faire un parlement de transition.
Non, le parlement de transition a existé avant les anti-Balaka, mais
d'accord,
aussitôt après, que comment il s'appelle, les Seleka, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont dissous le, comment vous appelez, la constitution, toutes les institutions. Et donc, il y avait eu ce qu'on appelle le sommet de N'Djamena, où tous les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se sont retrouvés au Tchad pour trouver une alternative politique face à la situation de la République centrafricaine. Et il y avait les puristes qui voulait pas du tout que Ndouto Dia reste président, qu'on organisait la succession de Bozizé par le président du Parlement pour organiser un intérim pendant 6 mois et réorganiser les élections. Ça, c'était la position de l'Afrique du Sud surtout, et de l'Union africaine. Mais c'est Bozizé qui a encore mis le verre dans le fruit, parce qu'avant de partir, il a dissous toutes les institutions, y compris la Cour constitutionnelle. Or, la Cour constitutionnelle est la seule institution qui pouvait constater la vacance de pouvoir et organiser la prise de pouvoir par intérim du président de l'Assemblée. Donc, c'était juridiquement impossible de l'organiser. Et donc, comme il n'y avait pas de président de la République, il n'y avait personne qui pouvait mettre en place une Cour constitutionnelle de transition. Donc,
c'est la politique de la terre brûlée.
Effectivement. Pierre veut dire quelque chose.
Hein? Non, je voulais juste savoir, justement, devant cette politique de la terre brûlée, une question que j'ai déjà posée à mes frères centrafricains. Mais par rapport à l'exploitation de la forêt, du diamant, de toutes les ressources, en ce temps de crise.
Mais je reviens dessus, je finis la réponse de comment le CNT est mis en place, le Conseil national de transition. Et donc, le sommet de N'Djamena a finalement accepté que Ndouto Dia demeure président par intérim, à condition qu'on mette en place un parlement de transition et que ce parlement valide sa prise de pouvoir. Et donc, on a mis en place ce parlement qui, initialement, devait être composé de 105 membres. Et il y a eu beaucoup de magouilles autour de la mise en place de ce parlement parce que on a, sur l'insistance de la société civile, on a voulu que la société civile soit grandement représentée dans ce parlement, qu'on ne veut pas qu'il soit simplement politique, mais qu'il tienne compte des intérêts réels du pays et qu'il prépare un retour facile et rapide à la légalité constitutionnelle.
C'est un parlement un peu révolutionnaire, en fait.
Bien sûr que oui. Il n'est pas un parlement normal, il n'est pas un parlement constitué de politique. Et les processus de prise de décision là-bas sont complexes parce qu'il n'y a pas de groupe parlementaire, en fait. C'est des entités indépendantes qui constituent le Conseil national de transition, mais c'est des parlementaires qui sont libres, qui disent ce qu'ils pensent, qui n'ont pas de consigne de vote. Et donc, c'est comme ça que Ndoutoudia a été validé finalement par ce parlement. Pourquoi ? Parce qu'on était devant des faits accomplis. Il a déjà pris le pouvoir et les Séléka, à l'époque, ils étaient partout dans le pays. Alors, vouloir le virer du pouvoir, c'était vraiment sacrifier tout le peuple, vu leur force de nuisance.
Il a joué un rôle un peu trouble aussi.
Il est là.
Il était devenu quand même le premier magistrat, en quelque sorte, de la République centrafricaine.
Oui, bien sûr.
Il se devait à toute la population.
Oui, son défaut vient de là, parce que, comme je le disais, il a pris le pouvoir, soit il a eu un semblant de légitimité, mais maintenant, au lieu de gouverner, de gérer le pouvoir de l'État, ce n'est pas lui directement, mais on lui attribue ça, puisqu'il est le chef de la coalition Séléka, il était le chef d'État de transition. Il n'a pas empêché les Séléka de commettre tout ce qu'ils ont commis et qui ont amené ces désordres-là. Et donc, quand Ndoutoudia a démissionné, sa démission n'a pas entraîné la dissolution du Parlement de transition qui est resté en place, mais on a dissous le gouvernement, l'exécutif, mais le Parlement était resté, parce que c'est la seule institution républicaine qui restait, et donc il revenait. Et aussi, il y a eu un document qui remplace la Constitution, ce qu'on appelle la charte constitutionnelle de la transition, qui est la constitution de transition, a déjà prévu, en cas de démission ou de décès du chef de l'État, que c'est le Parlement qui devait élire son successeur. Donc,
Je voudrais te demander, parce qu'on a débordé, et je ne voudrais pas non plus on pourrait te réinviter indéfiniment, parce que ce sujet est vraiment passionnant.
Je suis là jusqu'au 10.
Bon signe.
C'est bon à savoir.
C'est bon à savoir, on note. Je voudrais quand même te demander, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, pendant que les groupes, les uns s'opposent aux autres, l'escalade monte, pendant ce temps, effectivement, les multinationales sont toujours là, la forêt continue d'être dévastée, ce qui est un problème en Centrafrique, qui est quand même une des plus grandes forêts équatoriales au monde, avec la forêt amazonienne.
La deuxième.
Les diamants, il y en a toujours un petit peu, je crois. Donc, quelle est sur le plan plus économique et, on va dire, des multinationales, qu'est-ce qui se passe en Centrafrique actuellement, sans trop rentrer dans les détails, si tu veux.
C'est le flou total. C'est le flou total. Personne ne sait ce qui se passe, mais nous savons qu'on continue d'exploiter frauduleusement le diamant centrafricain, même les Séléka aussi. On a beaucoup exploité parce que certaines des régions qu'ils ont occupées en venant sont des régions diamantifères. Et aussi, il y a des présences militaires françaises dans les zones diamantifères. Souvent, on se demande pourquoi ils s'intéressent uniquement à ces villes-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, personne ne contrôle l'exploitation des richesses de la République centrafricaine. Donc, vraiment, je n'ai pas une réponse précise, je ne peux pas dire du n'importe quoi, mais je sais qu'en ce moment, c'est l'anarchie totale.
Bah, c'est une réponse.
N'importe qui peut faire n'importe quoi en République centrafricaine.
Il n'y a plus de contrôle étatique, quoi.
Non, l'État a perdu le contrôle. Et puis, vous savez, l'économie centrafricaine est une économie essentiellement fiscaliste. C'est à travers les taxes sur les différentes exploitations que ça explique le fait qu'au jour d'aujourd'hui, l'État centrafricain vit essentiellement grâce à l'aide financière internationale. Les caisses de l'État sont vides, il n'y a plus d'argent qui entre parce que les sociétés officiellement ont fermé. La République centrafricaine a été suspendue dans le processus de Kimberley, cette institution mondiale qui gère la circulation des diamants dans le monde. Donc officiellement, l'Arabie centrafricaine ne devait pas exporter du diamant, mais on sait que comme ça, les gens ils sont pas bêtes, il faut sortir le diamant par les pays voisins, ils les enregistrent dans le lot des pays voisins et tout ça, et puis tout est compliqué au jour d'aujourd'hui. Il y a un besoin urgent de rétablir l'administration centrafricaine et pour reposséder le contrôle de tout ça, mais pour le moment il n'y a pas le contrôle.
Alors justement, au jour d'aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation en Centrafrique ? La situation s'est améliorée significativement ?
Ça s'est amélioré, mais ça demeure toujours complexe. Oui. Amélioré, c'est à Bangui, au jour d'aujourd'hui, il y a 2 arrondissements sur 8 qui continue de faire l'objet d'une insécurité, le 3e arrondissement et le 5e arrondissement de la ville de Bangui. Dans le 3e arrondissement, il y a des gens qui ont pris en otage toute la population là-bas. C'est un quartier qui est constitué en majorité de musulmans. Et donc, il y a des groupes d'extrémistes là-bas qui continuent de sévir. S'il y a des chrétiens qui entrent là-bas, on les agresse, on les tue même. Et ce qui fait que les musulmans ont aussi peur de circuler. Hein, il y a une sorte de climat de vengeance chaque fois qu'on tue un chrétien qui s'aventure dans ces quartiers et que les gens s'en prennent aussi à des musulmans. Mais je dis bien, ce n'est pas des musulmans qui font ces choses-là. Les musulmans aussi sont victimes, tout comme les chrétiens aussi sont victimes. C'est des groupes d'extrémistes qui ont pris la population centrafricaine en otage.
Et est-ce qu'auparavant, en Centrafrique, on avait, par exemple, assisté à une montée de l'intégrisme islamique ?
Non, honnêtement parlant, non, c'est rare. Depuis toujours, chrétiens et musulmans ont vécu en harmonie en République centrafricaine. C'est l'arrivée de la coalition Silika qui a apporté cette dimension où les chrétiens pensaient qu'ils étaient maltraités par les musulmans et qu'ils ont voulu réagir. Mais ce n'est pas vraiment quand je dis chrétien, c'est que bon, la majorité de la population non musulmane ont réagi, mais ce n'est pas au fait, ce n'est pas l'église chrétienne et la communauté musulmane qui étaient en conflit. Non, on n'a jamais connu ça avant.
Gervais Lacosso, on va devoir conclure maintenant, malheureusement, parce que encore une fois, on pourrait continuer une journée entière. J'aimerais te demander, je t'ai posé une question difficile tout à l'heure, je t'en pose une encore plus difficile, mais peut-être pour conclure, selon toi, qui es donc député de cette assemblée de transition en partie constituante, vers quoi on va là maintenant et qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Je pense que c'est une question peut-être pas si difficile que ça, mais très importante, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que l'opinion française soit au courant de ce qu'il faut faire en Centrafrique. D'abord, sur le plan sécuritaire, c'est de désarmer tous les détenteurs illégaux d'armes. Parce que c'est ça qui complique la normalisation de la situation. Et ces gens-là, ils sont connus. On sait là où ils se trouvent, mais malheureusement, les forces internationales qui sont là-bas évoquent plusieurs sous-raisons, je dirais, pour ne pas le faire. Il faut qu'ils soient désarmés. Et une fois qu'ils soient désarmés, qu'ils sont dépossédés de leurs outils de mal, on peut s'asseoir, parler pour savoir que s'est-il passé, pourquoi on en est arrivé là, hein, pour mettre en place un processus vérité et réconciliation, parce qu'il y a aussi trop de mensonges qui circulent en République centrafricaine,
d'abord, oui, sur les uns les autres,
entre nous les centrafricains d'abord, et puis même aussi sur le plan international, il y a un gros mensonge autour de la République centrafricaine, on dit des contre-vérité sur ce pays, sur ce qui se passe dans ce pays. On a besoin vraiment de rétablir la vérité et pour que vraiment la situation redevienne à la normale. Vous avez une crise, c'est comme une maladie, une grave maladie, on l'attrape vite, mais pour en guérir, Ça prend du temps, mais surtout, il faut consulter un bon médecin et avoir un bon traitement.
Ben merci pour tous ces éclairages. Alors, en ce qui concerne la semaine culturelle en elle-même, nous ne manquerons pas ici sur les ondes de Canal Sud de redonner régulièrement les programmes de cette semaine. Merci donc à tous les participants de cette rencontre, en particulier Gervais Lacosso qui a fait le voyage de Bangui à Toulouse. Merci donc à notre ami Pierre Wabelozo, le directeur artistique du Ballet Théâtre Congo à Toulouse, que nous découvrirons peut-être dans une prochaine émission de façon plus détaillée. Merci très amicalement à Anne Alexandra
qui a été
l'interface
cette rencontre
et qui a fait réussir cette rencontre qui nous a apporté des éclairages précieux sur la situation que vient de connaître la République centrafricaine. Africa, ambala kweti kulo. Baba Buganda, bakala ni teretilo. Siewara, di bandasi. Asala laso, gubale.